Chapitre 3e, les Canaries à l'Équateur. Prise d'un requin, cérémonie du passage de la ligne. Dans ces latitudes équatoriales, où le soleil, presque toujours d'aplomb, exerce une si puissante influence sur l'atmosphère, il est rare que les mauvais temps soient de longue durée. En général, on ne passe la ligne qu'à l'aide de petits coups de vent, d'orage, et après le grain, le ciel redevient limpide et bleu. La tourmente fut courte, l'élégant dame voltigea autour de nos mâts avec un calme confiant, indicateur d'une journée tranquille. Les marsouins, dans leur brillante migration, ne faisaient plus jaillir les flots écumeux par le soubresaut plein de folie. La gigantesque baleine se pavana majestueusement entre deux eaux et nous montra de temps à autre son dos immense sur lequel l'albatros pélagien, arrivé la veille des régions glacées, se précipitait comme une flèche et se relevait à l'instant pour chercher une nourriture plus certaine, tandis que le navire, percé sur la quille de cuivre, roulait et tanguait au gré de la vague contre laquelle le gouvernail était sans puissance. « Requin !» dit tout à coup un de nos matelots. « Requin à l'arrière !» En effet, un requin monstrueux, l'œil aux aguets, attendait avec sa voracité accoutumée les débris de bois, de linge, de goudron dont on débarrasse le pont et les batteries. Voici donc un épisode au milieu du calme plat que déjà nos impatients matelots commençaient à maudire avec leurs jurons accoutumés. À l'instant, un solide émerillon est recouvert par un énorme morceau de lard salé et jeté à la traîne, fortement noué avec un gros filin. L'amorce n'est pas restée 2 minutes à l'eau que déjà le pilote, ce petit poisson pourvoyeur du requin, par un frétillement plus rapide, dit à son maître qu'il a là une proie facile. Le vorace animal s'élance aussitôt, se retourne sur le dos pour mordre avec plus de sûreté. Il serre avec force le fer aigu, dont la pointe pénètre dans les chairs, et sort toute rouge par la mâchoire supérieure. Le monstre a beau s'agiter, plonger, se tordre et remonter à la surface, il nous appartient désormais. Et nous voilà tous pesant sur lui, l'arrachant de son domaine et le jetant prisonnier vaincu sur le pont, dont il frappe les bordages avec violence. Le pilote ne l'a pas abandonné. Fidèle au souverain qu'il s'est volontairement imposé, il se crampe au ventre du requin et vient généreusement mourir avec lui. Cependant, plusieurs de nos matelots, heureux de cette capture, se sont munis de haches tranchantes et ont commencé leur œuvre de dissection avec des cris d'enfant, car ils n'avaient pas compté sur du poisson frais pour dîner. En deux coups, marcher a séparé le corps de la queue au-dessus de la dernière nageoire, et un aviron placé à l'instant même dans la bouche du requin et broyé sous son triple rang de dents fortes, aiguës et tranchantes. Il y avait péril à s'approcher de trop près du requin, dont une caronade et le filin à marée étendue maîtrisaient à peine les rapides convulsions. On le traîna sur le gaillard d'avant, où il fut suspendu et ouvert. Marchais et Vial firent l'opération en homme habitué à ce genre d'exercice. Ébouché implacable, il répondait aux tortillements saccadés du monstre par des ladis et des quolibets qui mettaient en bonne humeur le reste de l'équipage. Cependant, les intestins et le cœur avaient été arrachés. Il ne restait plus intact que la carcasse, dont chaque escouade choisissait déjà de l'œil sa part huileuse, et le vivace animal se tordait toujours par un mouvement fiévreux. 2 heures après l'opération, le cœur battait violemment dans nos mains et les forçait à s'ouvrir par des secousses inattendues, tandis que ses débris mutilés et plongés dans l'eau pour être conservés plus frais donnaient encore signe de vie le lendemain. Ce requin avait 12 pieds de longueur. Il était de la grande espèce, et les tortures que nous lui fîmes subir durent vivement exciter sa colère et donner de la vigueur à ses mouvements qui furent en effet rapides et tourmentés. Mais n'ajoutez aucune fois, je vous prie, à tous les contes absurdes qu'on vous fait de bordages défoncés par les coups de queue des requins étendus pleins de vie sur le pont d'un navire. Ce sont là ces hyperboles de voyageurs casaniers qui ont recours aux merveilleux pour faire croire au péril des courses lointaines qu'ils n'ont faites qu'autour de leur foyer domestique, certes. Un homme serait renversé et blessé par les mouvements imprévus d'un requin captif à bord. Mais il n'y a rien à craindre, je vous assure, dans ces luttes prolongées pour les bordages et la sécurité du navire. Quelques heures plus tard, nos observations nous placèrent presque sous la ligne et les incidents de la veille furent oubliés dans les préparatifs d'une fête solennelle et bouffonnée à la fois, consacrée par l'usage de tous les peuples de la Terre et de laquelle la gravité même de notre expédition éminemment scientifique, n'avait pas le droit de nous affranchir. Rien n'est despote comme un antique usage. Le passage de la ligne est une époque mémorable pour tout navigateur. On change d'hémisphère, De nouvelles étoiles brillent au ciel, la grande ours se cache sous les flots, et la croix du sud plane éclatante sur le navire. Lors des premières conquêtes des navigateurs du XIVe siècle, le passage de la ligne était un jour religieux de terreur et de gloire. Il devint plus tard un sujet de raillerie et de mépris. L'art nautique, agrandi par l'astronomie, science exacte et féconde, fit justice du merveilleux dont on avait coloré les phénomènes rêvés sous des zones jusqu'alors inconnues. Dès ce moment aussi, la peur s'évanouit et les dangers furent bravés avec insouciance. Dès qu'on les supposa moindres, on osa les supposer nuls. Cependant, des obstacles restaient encore à vaincre et d'autres luttes devaient se préparer plus tard. Les périls soumis donnaient de l'audace et des cris de joie retentissaient alors que le cap de Bonne-Espérance, le cap Horn et le détroit de Magellan n'avaient pas encore appris aux Colomb, aux Cabral, aux Dia de Soli, aux Vasco de Gama que les mers les plus tempétueuses leur restaient à vaincre. Ainsi, ce fut d'abord la frayeur qui institua la cérémonie du passage de la ligne, dont il faut bien que je vous parle un peu puisque c'est un des plus graves épisodes de notre longue campagne. Dès la veille, un bruit inaccoutumé, retentissant dans la batterie, nous disait que les héros de la fête savaient les us et coutumes des anciens. Les caronades résonnaient sous les coups précipités des marteaux qui façonnaient avec de la tôle les chaînes des diables, la couronne du monarque, son sceptre et son glaive sans fourreau. Les matelots poètes, et ils le sont tous plus ou moins, improvisaient des refrains joyeux et gaillards. Cependant, l'heure est venue. La batterie est déserte. Le pont se peuple, les visages sont gais et rayonnants. Tout à coup, les fouets sifflent, les trompettes sonnent. Et de la grande une descend un luron botté, éperonné, s'avançant avec gravité vers le banc de car et demandant d'un ton impérieux le chef de l'expédition. « Qu'il accoste sur le champ » ajoute-t-il. « J'ai affaire à lui, ou plutôt, il a affaire à moi. » Notre commandant, humble et soumis, se présente bientôt revêtu de son grand uniforme. « Que voulez-vous » dit-il au courrier. « Te parler. J'écoute. Que viens-tu faire dans les parages du roi de la ligne ?»« Des observations astronomiques. Bêtise. Et compter les oscillations du pendule pour déterminer l'aplatissement de la Terre dans toutes ses régions. Que c'est plat. Étudie aussi les mœurs du peuple. On s'en bat l'œil des mœurs à étudier. Qu'est-ce que ça peut te rapporter tout ça ? De la gloire. » Et la gloire donne-t-elle du vin, du rhum, de l'eau de vie ? Non, pas toujours. Alors je me fiche de ta gloire comme d'une chic usée. Au surplus, c'est votre affaire à vous tous, Pékin de l'état-major, qui vous dorlotez dans vos cabines quand nous sommes trempés comme des canards. Mais il s'agit d'autre chose en ce moment. Maître Fouque, roi de la ligne, t'écrit. Je suis son courrier, voici sa lettre, sais-tu lire ? Un peu. Mon neveu, tiens, j'attends ta réponse. L'épître était ainsi conçue. « Capitaine, je veux bien que ta coquille de noix aille de l'avant, si toi et ton piètre et ta major consentez à vous soumettre aux lois de mon empire. Y consentez-vous ? Larque tes voiles, hisse tes bonnettes et file tes 12 nœuds. Si tu n'y consens pas, paravire, love for love et navigue à la bouline. » Signé Fouque, second maître d'équipage de la corvette, actuellement roi de la ligne. « Je connais mon devoir, » répond le capitaine. « Dès ce moment, je suis le sujet du roi, ton souverain. » À la bonne heure. Sais-tu marcher la tête en bas, les pieds en haut, j'apprendrai. Rien n'est plus facile. As-tu mangé du phoque et du pingouin? Pas encore. Tu en mangeras, je t'en réponds. Aiguise tes dents, et après cela, si le vent est favorable, si aucune roche ne t'arrête en route, si ton navire ne sombre pas au large, et si tu ne crèves pas, tu reverras ton pays, c'est moi qui te le dis. Je vous remercie de vos prédictions. Ce n'est pas encore tout, il fait bien chaud. Ah, c'est juste, j'oubliais. Vite, une carafe d'eau filtrée à l'ambassadeur. Tu te fiches de moi ? Alors du vin, merci. Aujourd'hui, je ne bois que de ce qui saoule. Voici une bouteille de rhum. C'est mieux. Mais on boit avec une seule jambe et il m'en faut deux. Les voici. C'est faire les choses en vrai gabier. Tu arriveras. Adieu. À bientôt. Les fanfares recommencent. Le courrier remonte triomphant vers la hune où l'attend le roi, entouré des meilleurs matelots. Et tandis que l'équipage impatient et joyeux se rue sur le pont, le nez au vent, l'oreille aux écoutes, Maître Fouque fait tomber sur lui un déluge d'eau salée, faible prélude des ablutions plus complètes qui auront lieu le lendemain. Pour nous, gens à privilège, placés au gaillard d'arrière, nous reçûmes sur les épaules une violente grêle de blé de Turquie et de pois chiches qui, sans nous blesser, nous força la retraite. Mais le grand jour est arrivé. Et de la batterie enjolivée monte par les écoutilles la mascarade la plus grotesque, la plus bizarre, la plus hideuse que jamais imagination de Callot eût pu jeter sur la toile. Les peaux de deux moutons écorchés la veille servent à vêtir le souverain. Son front est paré d'une couronne et son cou desséché est orné d'un double rang de pommes de terre taillées à facettes. Son épouse, le plus laid des matelots de l'équipage, voile ses appâts sous des jupes fabriquées à l'aide de 5 ou 6 mouchoirs de diverses couleurs. Deux melons inégaux, que convoitent les yeux amoureux de l'époux monarque, embellissent sa poitrine velue et ridée. Le chapeau de tricorne de M. de Kellen, notre indulgent aumônier, coiffe le chef du notaire. Je ne sais pourquoi, il y a des notaires partout. Deux ânes portent le roi. Le rôle a été vivement disputé et on ne l'a obtenu qu'après avoir donné des preuves éclatantes de haute capacité et d'entêtement. Lucifer, avec son bec fourchu, ses cornes aiguës et traînant de longues chaînes, est vigoureusement fustigé par une badine de 3 pieds de long et de 2 pouces de diamètre. Il feint de vouloir s'échapper, mais, épouvanté par l'eau sacrée dont l'inonde le prêtre, choisi parmi les moins sobres des matelots, il ronge ses fers, fait entendre d'horribles rugissements et pousse du pied la fille du monarque, qui se jette sur le sein de sa mère et le mord avec voracité. 8 soldats armés ferment le cortège, qui prend des bancs, des tabourets ou des fauteuils, selon la dignité de chaque personnage. « Vous avez donc froid ? » disions-nous à Sa Majesté la ligne qui grelottait. « Hélas non !» répondait Maître Fouque, « j'étouffe, au contraire, sous cette épaisse fourrure. Mais l'usage veut que je tremble, que je frissonne, et mes gens sont tenus de m'imiter en tout point sous peine d'être privés de leur emploi. C'est bête, j'en conviens, mais ainsi l'ont ordonné nos anciens, qui apparemment étaient plus frileux que nous. » Cependant, le trône est occupé. Les grands dignitaires prennent gravement leur place autour d'une énorme baille de combat, sur le bord de laquelle est adaptée une planche à bascule où doit s'asseoir le patient. La liste de tout l'équipage est entre les mains du notaire, qui se lève et lit à haute voix les noms et prénoms de chacun de nous. Le premier appelé est notre commandant. « Votre navire a-t-il déjà eu l'honneur de visiter notre royaume ?» lui dit le monarque. « Non. En ce cas, grenadier à vos fonctions. » À ces mots, 4 soldats armés de haches s'élancent sur le gaillard d'avant et font mine de vouloir abattre la poulaine à coups redoublés. 2 pièces d'or tombées dans un bassin placé sur une table arrêtent l'ardeur des assaillants, qui reprennent leur poste d'un air satisfait. Ce diable de métal fait partout des prodiges. L'état-major est appelé nominativement et chacun, à tour de rôle, se place à califourchon sur la planche à bascule qui domine l'énorme baille à demi-pleine d'eau salée. Là, on doit répondre d'une manière positive et sans hésiter à la formule suivante et sacramentelle, lue à haute voix par le notaire. Dans quelques circonstances que vous vous trouviez, jurez devant Sa Majesté la ligne de ne jamais faire la cour à la femme légitime d'un marin. Le patient doit répondre « Je le jure, sous peine d'immersion », et jeter dans le bassin 2 pièces d'argent réservées pour la première relâche à un gala général où les rangs et les grades seront confondus. La décence, car il en faut même dans les choses les moins sérieuses, la décence ne permettait pas qu'un seul de nous reçût l'ablution totale. On se contentait d'ouvrir une des manches de notre habit et d'y infiltrer quelques gouttes d'eau en prononçant les paroles d'usage « Je te baptise ». Mais quand vint le tour des matelots, nul ne fut épargné. Plongé dans la baille, il ne parvenait à en sortir qu'après les efforts les plus inouïs, les contorsions les plus grotesques. Les énergiques jurons frappaient les airs, les éclats de rire se mêlaient aux jurons et les bons mots de cabaret se croisaient sans que pas un martyr eût osé se fâcher. C'était une joie bruyante, tumultueuse, une joie de matelot en délire qui oublie que là et là, sous ses pieds, sur sa tête, il y a une mer et un ciel, dont le caprice et le courroux peuvent le broyer et l'engloutir aujourd'hui ou demain. Hélas, ces heures sont si courtes à bord que je ne vis pas sans un vif regret l'horizon se charger de nuages et la cérémonie près d'être close par une bourrasque ou une tempête. Mais un incident inattendu devait varier encore les émotions de la journée. Un nom répété plusieurs fois sans réponse. On se questionne, on s'émeut, on s'agite, on fouille de tous côtés, dans les unes, sous les câbles, on descend dans la batterie, et l'on apprend enfin qu'un profane, fier de son état de cuisinier, est décidé à tout prix à s'affranchir de la règle commune. « Tout le monde à la batterie !» crie une voix formidable, et la batterie est aussitôt envahie par les écoutilles et les sabords. « Sur le pont, sur le pont, à cheval sur la bascule, point de grâce, point de merci, que la noyade soit complète » s'écrit-on de toutes parts. qu'il en perde la respiration. » Dans la batterie, en effet, était un héros, cuisinier de l'état-major, lequel avait juré en partant de ne pas recevoir le baptême et qui aurait regardé comme un grand déshonneur qu'une seule goutte d'eau salée vint outrager l'harmonie de ses cheveux bouclés avec une coquetterie dont il tirait une si ridicule vanité. Son front ruisselant et coiffé d'un bonnet blanc de l'ordre, où voltigent çà et là quelques légères plumes, dépouillant sanglantées de ses victimes du jour. Ses yeux sont rouges de colère, sa mâchoire contractée, ses lèvres violettes, crispées et frémissantes. Son tablier, relevé avec grâce sur l'épaule, le drape à la grecque. Un grand couteau de cuisine pend à son côté et figure un glaive hors du fourreau. De la main droite, il tient serré une longue broche, où est empalé un chapelet de pigeons à demi consumé, qui, la tête tournée vers les assaillants, semble les menacer d'un sort pareil au leur. Son pied, chaussé d'une pantoufle verte, presse fortement une caronade, et bien disposé à se défendre, il adresse partout la parole au plus audacieux de ses ennemis. « Que me voulez-vous, qui vous amène dans mes foyers ? L'ordre de notre roi. Obéissez, puisque vous êtes esclaves. Moi, je n'ai pas de roi, et je trône seul ici. Tu dois être baptisé comme nous. J'ai reçu mon baptême de feu, et cela me suffit, je ne veux pas de votre baptême d'eau. La loi est pour tous, mon code à moi est celui que je me suis fait. Et vous êtes des renégats, qui abjurez votre première religion pour une religion nouvelle. Ici est mon domaine, mon empire. Ici ce sont mes dieux et ma croyance. Ces fourneaux, ces casseroles, ces broches, ces pelles, ces lèches-frites, ce sont là mes armes, les insignes de ma souveraineté, de mon indépendance. Quel rapport existe-t-il entre vous et moi ? Suis-je le coq, sale fricoteur de vos monotones et maigres repas ? Ai-je l'habitude de manquer les ragoûts ? Non. De ne point épicer mes sauces ou de brûler mes fritures ? Non. Qui vous a donné le droit de m'attaquer, de me poursuivre, de me traquer, chez moi comme une bête fauve, comme un marsouin, requin que vous êtes ? Oh, je ne vous crains pas, car moi, voyez-vous, je n'aurais pas salué le chapeau de Gessler, je ne me serais point courbé devant le cheval de Caligula, et je ne serais pas baptisé. » Il dit et plante dans le bordage sa broche aiguë qui tremble jusqu'à ce que la rage de Mars et le poids des étiques pigeons aient cessé de l'animer. « En avant les pompes !» dit Marchais de Savoie rauque et caverneuse. « En avant les pompes !» Émile Gérapide inonde de l'avant et de l'arrière l'intrépide cuisinier dont les sauces grandissent sans devenir plus mauvaises. Celui-ci reste cloué à son poste d'honneur, pareil au rauque battu par la tourmente, et il sort, sinon vainqueur, du moins invaincu, de cette lutte acharnée à laquelle un grain violent, pesant sur le navire, vient mettre un terme. L'orage dura quelques heures. L'effervescence des matelots se calme avec les vents. Une nuit silencieuse et douce plana sur la corbette mollement balancée. Et nous nous vîmes jetés de nouveau sous les zones heureuses des vents alizés, qui soufflant également dans les deux hémisphères, devaient voyager avec nous jusqu'au Brésil.